à voix haute. Troisième épisode. Chapitre 16. La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie, puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis, eux aussi s'escamotaient dans les coulisses, alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord, et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient deux fois par an. Chapitre 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit ? » fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit ? » fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé ? » demanda le petit prince. « Sur la Terre, en Afrique, » répondit le serpent. « Ah ! Il n'y a donc personne sur la Terre ? » ?»« Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande, » dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin. » « Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici ? » ?»« J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. « Ah ? Fit le serpent, et ils se turent. « Où sont les hommes ? » reprit enfin le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est seul aussi chez les hommes, » dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, » lui dit-il enfin, « mince comme un doigt. »« Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, » dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme ?
Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent.
Chapitre 18. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales. Une fleur de rien du tout.
Bonjour, dit le petit prince.
Bonjour, dit la fleur.
Où sont les hommes ? Demanda poliment le petit prince.
La fleur, un jour, avait vu passer une caravane.
Les hommes ?
Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup.
Adieu, fit le petit prince.
Adieu, dit la fleur.
Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret.
D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes.
Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées.
Bonjour, dit-il à tout hasard.
Bonjour, 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 répondit l'écho.
Qui êtes-vous ? Dit le petit prince. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ?
Répondit l'écho.
Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho.
Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination, ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première.
Chapitre 20.
Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes.
« Bonjour, dit-il. »
C'était un jardin fleuri de roses.
« Bonjour, dirent les roses. »
Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur.
« Qui êtes-vous ? » leur demanda-t-il stupéfait.
« Nous sommes des roses, dirent les roses. »
« Ah ! » fit le petit prince.
Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5 000 toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis, il se dit encore, « Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et couché dans l'herbe, il pleura.
Chapitre 21.
C'est alors qu'apparut le renard.
Bonjour, dit le renard.
Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien.
Je suis là,
dit la voix sous le pommier.
Qui es-tu ? Dit le petit prince.
Tu es bien joli.
Je suis un renard, dit le renard.
Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince.
Je suis tellement triste.
Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
Ah, pardon,
fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta,
qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
Tu n'es pas d'ici, dit le renard.
Que cherches-tu ?
Je cherche les hommes, dit le petit prince.
Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt.
Tu cherches des poules ?
Non, dit le petit prince.
Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens ?
Bien sûr, dit le renard.
Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé.
C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses.
Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince.
Le renard parut très intrigué.
Sur une autre planète?
Oui.
Il y a des chasseurs sur cette planète-là?
Non.
Ça, c'est intéressant. Et des poules?
Non. Rien n'est parfait, soupira le renard.
Mais le renard revint à son idée.
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu.
Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font entrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé.
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince.
« S'il te plaît,
apprivoise-moi, dit-il. »«
Je veux bien, répondit le petit prince,
mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »«
On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. »« Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. »«
Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »
« Que faut-il faire ? » dit le petit prince.
« Il faut être très patient, » répondit le renard.
« Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. »
Le lendemain revint le petit prince.
« Il eût mieux valu revenir à la même heure, » dit le renard. « Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur.
Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites.
Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince.
C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne.
Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances.
Ainsi le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche,
« Ah ! » dit le renard. « Je pleurerai. »«
C'est ta faute, dit le petit prince. »«
Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »«
Bien sûr, dit le renard. »«
Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »«
Bien sûr, dit le renard. »«
Alors, tu n'y gagnes rien. »«
J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. »
Puis il ajouta, « Va revoir les roses. » Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. »
Le petit prince s'en fut revoir les roses.
« Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. »
Et les roses étaient bien gênées.
« Vous êtes belles, mais vous êtes vides, » leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »
L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir.
C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose,
fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir.
Chapitre 22. Bonjour, dit le petit prince.
Bonjour, dit l'aiguilleur.
Que fais-tu ici, dit le petit prince.
Je trie les voyageurs par paquets de mille, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé grondant comme le tonnerre fit trembler la cabine d'aiguillage.
« Ils sont bien pressés, dit le petit prince.
Que cherche-t-il »
« L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur, et gronda en sens inverse un second rapide illuminé.
« Ils reviennent déjà ? » demanda le petit prince.
« Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur, c'est un échange.
Ils n'étaient pas contents là où ils étaient ?»«
On n'est jamais content là où on est, dit l'aiguilleur. » Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé.
« Ils poursuivent les premiers voyageurs ? » demanda le petit prince.
« Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. »«
Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. »«
Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. »
Chapitre 23. Bonjour, dit le petit prince.
Bonjour, dit le marchand.
C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif.
On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire.
Pourquoi vends-tu ça ? Dit le petit prince.
C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes ?
On en fait ce que l'on veut.
Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine.
Chapitre 24. Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau.
« Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. »
« Mon ami le renard, me dit-il. »
« Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. »
Pourquoi ?
Parce qu'on va mourir de soif.
Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit.
C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard.
Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif.
Un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi. Cherchons un puits. J'eus un geste de lassitude.
Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche.
Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire.
« Tu as donc soif, toi aussi ? » lui demandai-je.
Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement,
L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué, il s'assit. Je m'assis auprès de lui, et après un silence, il dit encore « Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. » Je répondis « Bien sûr », et je regardais, sans parler, les plis du sable sous la lune. « Le désert est beau ?» ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. « Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne l'a cherché, mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. « Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. »« Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. » Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune ce front pâle, ces yeux clos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais « Ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. » Comme ses lèvres entr'ouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore « Ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais, plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et quand tu seras consolé ? On se console toujours. Tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras « Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurai joué un bien vilain tour. » Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire. Et il rit encore. Puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de venin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait, décidé d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là !» Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. Tu comprends? C'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Moi, je me taisais.
mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces.
Moi, je me taisais.
Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire.
Moi, je me taisais.
Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots. J'aurai 500 millions de fontaines.
Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait.
C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul.
Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore,
« Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable, et elle est tellement faible, et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. »
Moi, je m'assis, parce que je ne pouvais plus me tenir debout.
Il dit, « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu, puis il se releva, il fit un pas,
moi je ne pouvais pas bouger.
Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile, il ne cria pas, il tomba doucement comme tombe un arbre.
Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Chapitre 27. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolé, c'est-à-dire pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd, et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié. Un soir le globe de verre ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous, qui aimez aussi le petit prince comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça,
C'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu, juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu.